France Culture.
Les nuits de France Culture.
C'était des extraits du reportage d'Albert Londres sur les pêcheurs de perles du golfe Persique que lisait André Dussolier dans le quatrième et dernier volet de la série que Geneviève Ladouès consacrait au père de tous les grands reporters en 1982. Un reportage de 1931, un an avant la disparition d'Albert Londres, en mer, au large du golfe d'Aden, dans l'incendie du Georges Philippard, le paquebot qui le ramenait de Chine. Sur les circonstances exactes de la mort d'Albert Londres, Georges Charensol avançait une version qui en valait peut-être une autre, puisque l'on n'a jamais vraiment su comment le journaliste avait péri dans ce naufrage. On a parfois évoqué un complot ayant pour but d'étouffer un scandale sur lequel Albert Londres avait enquêté en Chine. Une hypothèse que n'évoquait pas l'émission qui va suivre, dans laquelle témoignaient les grands reporters Marc Kravetz, Thierry Desjardins et Lucien Baudard. Albert Londres ou Le cri d'un honnête homme, quatrième et dernier épisode, une nuit à bord du Georges Philippard, 1932. Première diffusion, le 28 octobre 1982, sur France Culture.
Albert Londres ou le cri d'un honnête homme. Une nuit à bord du Georges Philippard, 1932.
Je n'étais pas spécialement à Suez pour y jouer au corail. Si j'avais dans le corps la peste, la typhoïde, la petite vérole et le choléra, je portais aussi un projet en tête. Était-il bien étudié? Savais-je exactement quelle étoile j'allais suivre? C'eût été trop beau dans le cas. Je partais à la recherche des pêcheurs de perles. Où donc? On pêche les perles à Ceylan, au Venezuela, à Tahiti, en Californie, dans la mer Rouge. Mais c'est ailleurs qu'il fallait se rendre. Le lieu de l'infernale féerie n'est ni l'océan Indien, ni la mer des Antilles, ni le Pacifique. Vous ne comptez pas, pauvre banc perdu. Capitonné de Nacre, couronné d'Orient, le golfe Persique règne sur vous tous. Et dans le golfe, posé sur l'eau turquoise comme une corbeille princière, abrité par un dais de nuages roses, là-bas se trouve Barène. La fameuse Barène, l'île magique, où chaque matin, les dames blanches, sortant du bain, apparaissent sur le sable, les mains chargées de perles.
Les pêcheurs de perles, c'est un peu le rêve du reporter. Parce que c'est un reportage pratiquement sans sujet. C'est un reportage d'histoire. Aujourd'hui, une jeune génération de journalistes se réfère assez systématiquement à Albert Londres, Joseph Kessel, etc. Qu'est-ce qu'on recherche à travers cela? C'est moins tellement le reportage d'information auquel nous sommes plus habitués et qu'en général on nous demande professionnellement que cette espèce de reportage, je dirais, désintéressé. On part sur un sujet, on ne le connaît pas, et on va reconstruire une histoire, une espèce de roman vrai, avec des vrais personnages, avec... Évidemment, ça, c'est formidable. Et Les Pêcheurs de Perles, c'est typiquement ce reportage gratuit.
Ici, l'heure a sonné de vous présenter Shérif Ibrahim. Il m'attend à terre. Peut-être aurait-il pu monter jusqu'à bord, mais depuis 15 jours, n'est-il pas redevenu arabe? Et c'est le moment de la prière de midi. Il doit la faire, s'il ne veut être égorgé. On dit que Shérif Ibrahim n'est pas son nom véritable. Peut-on le savoir? Si l'on en juge par ses papiers, il a vu le jour au Maroc, dans le Tafilalé. Je crois qu'il est du Doubs. En France, où parfois il séjourne, on peut le voir avec 5 galons sur la Manche. Toutefois, ce qui le distinguera entre tous, c'est la chose qu'il porte au-dessus d'un cou bien pris dans un col d'officier. Je veux parler de sa tête, de revenant du désert. Il semble s'être nourri de 3 dattes quotidiennes et toute sa vie avoir bu l'eau que des chameaux auraient ruminée pour lui. Je pense qu'il est français comme est anglais le colonel Lawrence. Sur les boulevards, son nom décoratif ne provoque aucun écho. De Port Saïd à Djibouti, il est sonore au point qu'il faut se garder de l'agiter au hasard. Shérif Ibrahim serait né un cadenas sur la langue que je ne m'en étonnerai pas plus que de raison. Dès qu'il quitte la France, il coiffe le fez. On le prend pour un Égyptien, ce qui ne lui plaît pas. Les Égyptiens, à son avis, parlant un mauvais arabe, tandis que lui en parle un fameux. Grâce à la prière Fagre, je fis sa connaissance. Nous occupions tous les deux une même cabine de paquebot. Au milieu de la nuit, un fantôme hanta le lieu de repos, se livrant à des génuflexions, se palpant les yeux, se chatouillant les oreilles. Puis le grand corps s'affaissa et pendant que du front il frappait le parquet, une croupe menaçante s'arrondissait. Tapis et terrifié dans ma couchette, je criai : qui va là ? C'était Shérif Ibrahim qui saluait l'aurore, il y a de cela bien des années. Tel est le compagnon de ma course aux perles, l'homme qui n'a pas eu peur d'avoir chaud.
Je me suis cassé le nez une ou deux fois en essayant d'entrer en Afghanistan. Bon, j'ai pu entrer d'autres fois, mais une ou deux fois où en effet j'ai pas pu entrer, bien que je m'étais déguisé successivement en professeur d'université, en médecin, en tout. Bon, j'ai raté là. Mais c'était passionnant ce qui se passe à Peshawar, qui est la première ville au Pakistan, à côté de la frontière où vous rencontrez tout. Alors il y a des trafiquants d'armes, des veuves de héros de la résistance, des agents soviétiques, des agents américains. On rencontre des tas de choses. Donc on peut dire, on peut pas vraiment rater totalement un reportage, sauf si vous loupez l'avion.
C'est un très grand journaliste, c'est un journaliste de style, c'est un journaliste qui sait raconter, écrire, mettre en scène une histoire, faire un dialogue. C'est très marqué par une époque, par une façon d'écrire, de décrire des personnages. C'est très marqué par des préjugés d'époque aussi. C'est tout de même encore une grande époque coloniale. Avec une extraordinaire bonne conscience blanche, Albert Londres. Même si c'est un style généreux. Regardez, les scandales d'Albert Londres, c'est quoi ? C'est quand il crée le scandale dans sa société. C'est-à-dire avec le bagne, avec les asiles, avec le bagne militaire. Donc, il est capable d'inquiéter et d'ébranler un certain nombre de certitudes internes à la société pour laquelle il écrit, donc à la France. Quand, disons que ses descriptions des territoires d'outre-mer sont fortement marqués par la bonne conscience d'époque. Et je n'y vois pas matière à scandale, à dire « Ah, quand même, Albert Londres, il manquait du jod !» Non, c'était comme ça, les gens pensaient... Mais c'est un journaliste populaire qui pense dans les catégories populaires de son époque.
Comme tout le monde, j'avais parcouru la mer Rouge. C'était alors sur des bateaux de riches, ridicules monuments, palaces à la dérive. En un mot, lieu de scandale et de perdition, où l'homme peut non seulement manger et dormir, mais pousser l'audace jusqu'à s'abreuver d'eau naturelle. Passez, somptueux paquebot, vous ne m'intéressez plus. Aucun de vous ne m'a dit ce qu'était la mer Rouge. De l'humidité, une chaleur qui suffoque, des ventilateurs qui brassent. Si ce n'était que cela. Après Jeddah, après Odeida, voici les Farsans. Qui peut se flatter d'avoir trouvé une ville comme son imagination la lui représentait? Mais au nom de tous les joailliers du monde, je le demande, un archipel de pêcheurs de perles doit-il ressembler à un marché aux poux? Enfin, nous sommes à Séguid. Nous marchons avec le livreur de vermicelles qui nous conduit chez un akouda. Une plainte s'élève du bout de la ruelle où nous avançons, une plainte en arabe. Il n'y a que Dieu qui est grand, que Dieu qui est généreux, que Dieu qui donne aux pauvres qui pleurent. C'est un aveugle. Un moucharabais se soulève et Dieu apparaît sous la forme d'une main qui laisse tomber trois dattes dans la poussière. Le bruit du moucharabais, celui des dattes touchant le sol, n'ont pas échappé aux mendiants. Ils tâtonnent pour trouver la manne. Nous ramassons les dattes et les lui donnons. « Dieu est bon parce qu'il est grand, dit-il. » Cet aveugle était un ancien plongeur. Demandez-lui, shérif, depuis quand il est aveugle. Réponse, depuis 5 ans, mais il n'a cessé de plonger que depuis 3 ans. « Je ne comprends pas, il est aveugle, dites-vous, depuis 5 ans ?» Réponse, la cécité n'est pas un empêchement au métier de plongeur. Alors pourquoi ne plonge-t-il plus? Réponse, ce n'est pas à cause de ses yeux, mais de son souffle. Il ne pouvait plus emmagasiner assez d'air d'une seule lampée. Ne pouvait-il rester moins longtemps sous l'eau? Réponse, il était bon plongeur, tenant jusqu'à 2 minutes. À la fin, il se faisait remonter après 35 ou 40 secondes. Le nakuda ne le considérait plus et lui avait honte devant ses camarades. N'a-t-il pas gagné d'argent? Réponse, dans son bon temps, il eut jusqu'à 1000 Marie-Thérèse d'avance. Les Marie-Thérèse sont des écus de 5 francs à l'effigie de l'ancienne impératrice d'Autriche, seule monnaie connue dans ces parages. Et maintenant? Réponse, un homme qui n'a plus que 30 secondes dans les poumons n'a droit à rien. N'a-t-il pas gardé quelques perles? Réponse, où les aurait-il prises? Il n'a jamais été nakuda. Toutes les huîtres qu'il a pêchées allaient sur le tas commun. Nous lui dîmes au revoir. On entendit encore qui gémissait, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Il avait 35 ans au plus. Le lendemain, à la fin de l'après-midi, les premières îles du groupe apparurent. Nous piquâmes sur Dalak et mîmes pied à terre. Maintenant, nous allons, entourant le grec et l'italien. Ces deux hommes ne sont pas des hésitants. Ici, comme à Odeida, ils savent ce qu'ils font. Du sable, quelques plants de cactus, des cases de paille, une chèvre, une seule, qui en vain en appelle d'autres, tel est le décor. Et la nuit tombe. Assis près de l'arabe, le grec l'entretient à voix basse. L'arabe sort un calicot rouge de sa poche et le donne au grec. Le grec dénoue le calicot, il prend une perle et la met dans ma main. 300 livres, fait le grec. Très belle perle. Morlin, n'aie pas peur, fais l'épreuve de la dent. Je mords la perle. Le grec soulève la lanterne. Aucune trace. Le grec reprit la perle et la posa dans la main de shérif Ibrahim. Il a fallu que tout l'équipage fût d'accord, dit mon compagnon, pour escamoter cette pièce. À qui appartient-elle? 250 livres, elle est à toi. Vient-elle d'un grand ou d'un petit équipage? D'un petit, 8 hommes. Un nouvel arabe prit place dans notre cercle. En général, les affaires irrégulières se traitent à mi-voix. Ici, le grec se met à crier toutes ses démarches dans l'oreille de ce convive de dernière heure. C'était l'un des 8 pêcheurs. Les calculs auxquels tout ce monde se livrait nous ouvrirent un horizon insoupçonné. On les entendait dire « Un tiers pour l'équipage, un tiers pour les aveugles, un tiers pour les courtiers. » Quels aveugles ! Et nous apprîmes ceci. Tous les deux ans, les pêcheurs de perles du groupe de Massaoua, mystérieusement unis, dérobent une, deux ou trois perles de valeur. Les sambouks qui doivent opérer ne sont pas désignés d'avance. On ne sait jamais ce que l'on remontera du fond de la mer. Mais l'on connaît vite à tous les bords le sambouk qui vient de faire une trouvaille et qui décide, les circonstances lui étant favorables, de porter la perle au comte de Yamal. Les armateurs sont bien entendu en dehors de ce complot. On affirme même que beaucoup l'ignorent. En tout cas, comment pourrait-il le prévenir ? N'est-ce pas la part du merveilleux ? Vous avez appris en même temps que nous à qui ces perles étaient destinées, à l'équipage, aux vendeurs, aux aveugles. Quels aveugles ? Ceux qui ont perdu la vue à chercher sous les eaux la main de la fortune. Peut-on envisager, sans un certain éblouissement, ces dupes du sort secourues par la voix de la duperie ? Il m'a semblé, devant cette petite découverte, entendre la vie ricaner tout bas. Le représentant des huit pêcheurs dit que la perle ne pouvait être vendue moins de 150 livres. Les intéressés discutèrent avec férocité de leur intérêt. Le grec en brisa sa tasse dans sa main. L'italien, lui, resta froid et murmura « Moi, je n'aurai qu'une livre. »« Pourquoi toujours une livre ?» Lui-même répondit « Pour la boire, c'est bien assez. » Sur la base de 150 livres, l'arabe, notre hôte, en toucherait 20, le grec, 25, un autre personnage, 10, l'équipage, 45. Les aveugles n'avaient pas d'avocat. Leur part ne fut jamais en danger. Cela est un compte rendu, non un coin. Le plus émouvant n'est pas quand ils plongent, c'est quand ils remontent. Ils ne reviennent pas verticalement, mais inclinés, en ligne oblique, un flanc appuyé à l'eau, les yeux fermés, le nez pincé. Ce matin, l'eau est turquoise, très claire. On les aperçoit alors qu'ils sont encore immergés. Aucun mouvement de nage. La corde les tire comme des noyés. Un bruit de soie qu'on déchire. La tête passe la première, une épaule, puis un bras. Leur crâne rasé ruisselle. Chacun se raccroche à la corde avec un air de souffrance. Ils arrachent la pince. Du pouce et de l'index, ils pressent leurs yeux fermés, comme pour en exprimer un mal. Ensuite, ils passent leurs mains sur leur visage, par-dessus leur tête, comme un chat qui se nettoie quand on attend une visite. Ils soufflent et replongent. Les voici maintenant sur le bateau. C'est l'heure du repos. Nous nous asseyons au milieu d'eux. Demandez-leur s'ils sont fatigués. Ils rient. Ils ne sont pas fatigués. Le chab, le banc, était à 12 mètres. Qu'éprouvent-ils quand ils sont en dessous ? Ils rient. Je n'ai qu'à me pincer le nez 1 minute 50, 2 minutes et je verrai. J'essaye, au bout de 35 secondes, mon cœur frappe, je deviens rouge, je lâche la vanne, je veux dire que j'ouvre la bouche. Il rit. Ils disent que vous n'avez pas de disposition. Demandez au petit s'il veut devenir rec. Bien sûr. Mais tu seras sourd comme tout cela et tes yeux te feront mal. Il rit. Ouvre-t-il les yeux dans l'eau ? Ils ouvrent les yeux et ils voient très bien. Ça ne les brûle pas ? Un peu. Comment font les aveugles ? Ils promènent leurs mains sur le banc, ils ne se trompent pas. Ils ne remontent jamais du corail pour une huître. Sont-ils beaucoup à plonger ? Pas beaucoup, ils plongent surtout pendant qu'ils perdent la vue. Après, les nakuda ne les embarquent plus. Pourquoi ne veulent-ils pas essayer le scaphandre ? Les recs s'animèrent. Shérif mit un temps à démêler leurs réponses. Ils étaient 15 000 pêcheurs à Barennes. Y aurait-il 15 000 machines? 100 scaphandres, peut-être. Les scaphandriers resteraient longtemps sous l'eau. Dépeupleraient les bancs. Comment vivraient les autres? Je ne pouvais cependant pas leur dire qu'ils mouraient, surtout.
C'est travaillez, travaillez.
Ils bondirent à la relève.
Il n'y avait pas d'autre journaliste à faire une enquête en même temps que lui sur le bagne de la prostitution à Buenos Aires. Tandis que moi, je me trouve toujours dans des coins où je retrouve les mêmes têtes. En Indochine, par exemple, où je suis resté 7 ans, pendant la guerre d'Indochine des Français, eh bien, je me retrouvais toujours avec les 5, 6 ou 7 amis, copains, ennemis, rivaux, etc. Nous formions une sorte de groupe. Toujours, nous étions grégaires. Nous nous rassemblions toujours dans le même coin. Ce qu'on trouvait de plus commode, ce qu'on trouvait de mieux. À cette époque-là, il n'y avait pas de bons hôtels dans beaucoup de coins. Souvent, nous étions dans une tanière. Et alors, à la fois, nous nous entraînions, parce que les situations étaient difficiles. Elles étaient parfois dangereuses. Et puis, tout nous mentait. Parce que, si vous voulez, tout le monde ment aux grands porteurs, aux journalistes. Alors, nous discutions entre nous. Et puis, en même temps, nous étions rivaux. C'était à qui annoncerait la nouvelle importante avant les autres.
Est-ce que c'est pas dangereux, ça? De se retrouver avec un peu toujours la même bande, est-ce que ça ne vous empêche pas de voir réellement clair sur ce qui se passe sur le terrain?
Ah non, parce qu'on se retrouve tous ensemble le soir au bar de l'hôtel. Mais sinon, dans la journée, chacun est de son côté. Et alors le soir, justement, c'est intéressant parce qu'on se connaît bien et on échange nos informations, nos impressions. Donc, ça permet quelquefois, avant de faire le papier que chacun va envoyer, de se recouper un peu, de rééquilibrer peut-être un peu les choses.
Le fait de se retrouver entre journalistes, oui, je sais que un certain nombre de mes confrères apprécient beaucoup cela. Mais ça me semble un peu du même ordre, sauf que c'est plus répétitif que les rencontres d'anciens élèves. Parce que peut-être que se retrouver toujours dans les mêmes circonstances, c'est paradoxalement la preuve que rien ne change et que rien ne bouge.
Vous savez, quand on est journaliste, on va dans des endroits quelquefois assez dangereux, mais cette carte de presse est tout de même la meilleure des garanties, notamment dans ces milieux de la rébellion et que j'ai beaucoup fréquenté, parce que pour eux, bon, c'était bien d'avoir enlevé Madame Claus, mais c'était fantastique d'avoir un journaliste, car ça les a fait connaître au monde entier. Personne ne connaissait le nom d'Hyssen Habré, moi-même pas d'ailleurs, avant que j'écrive un papier sur lui. Et du jour au lendemain, il a été connu, sa cause a été connue. Bon, alors c'est vrai que pour ce genre de mouvement, un journaliste, ça vaut 3 divisions blindées. Évidemment, si on liquide le journaliste, il ne plaira jamais.
Il y a un détail qui n'est pas sans importance. Curieusement, cet homme qui parcourait le monde ne s'embarquait jamais sans une énorme malle. Et c'est ce qui a causé sa mort. Car je crois qu'on n'a jamais dit ça, et des témoins me l'ont affirmé. Lorsque le Georges Philippard dans la mer Rouge a pris feu, il a commencé à ranger ses affaires dans sa malle cabine. Il avait vu tant de choses dans sa vie, il avait assisté à tant de catastrophes, à tant de drames, que c'était un de plus. Donc, un bateau qui prend feu dans la mer Rouge, surtout un bateau très moderne, très bien équipé comme le Georges Philippard, Il a pris son temps, il a fait sa valise. Et lorsqu'il est arrivé sur le pont avec son énorme valise, le bateau a sombré. Et Albert Londres, à mon avis, et à l'avis des témoins, a été victime de sa nonchalance. Je suis passé à travers tant de guerres, tant de révolutions, tant de drames, etc. Bon, un bateau qui prend feu, on va éteindre l'incendie, c'est pas très grave, prenons notre temps, etc. Il a si bien pris son temps qu'il est mort brûlé vif, comme vous le savez, sur le Georges Philippard.
L'Asia, au cours de la journée, avait embarqué 1500 pèlerins. Ils devaient partir le lendemain pour le Yémen, Djibouti, Aden. L'incendie, d'un coup, avait gagné l'avant et l'arrière. Le ciel était noir et l'on ne voyait plus à l'horizon que cet immense enfer flottant. Je courus au port. 50 sambouks, voiles repliées, dormaient paisiblement et au fond de chacun, des bateliers arabes dormaient aussi. J'en sortis deux de leurs rêves. Ils hissèrent la toile et je partis vers l'épouvantable spectacle. La rade de Jeddah est traîtresse, semée de bancs de corail. Les paquebots mouillent très loin, à 3000 au large. Le sambouk, devant louvoyé dans les passes, était une course de 6000. L'air était brûlant, mais cette chaleur était celle du pays et non encore celle de l'Asie. Après une demi-heure, je ne voyais toujours que l'incendie, pas un autre sambouk, seulement l'incendie qui devenait terrifiant. Et je n'entendais pas un cri. Le sambouk avançait de passe en passe, il gagnait l'Asia. Entre deux bouffées de flammes, la cheminée tricolore apparut. Le sambouk continuait d'avancer. Subitement, des cris sauvages sortirent du brasier. La zone tragique était franchie. On n'avait pas eu le temps de descendre les canots de bâbord. Ils flambaient au-dessus du pont supérieur, entre leurs deux bras d'acier. Alors tout autour, je vis les embarcations des autres bateaux, celle du Belgrano, le second bateau français, et celle de l'Arabistan. Elles sauvaient tout ce qu'elles pouvaient. Les chaloupes se tenaient à 10 mètres de la coque. Les pèlerins avaient fait couler deux des canots de l'Asia sur les quatre qui avaient pu être mis à l'eau. Ils s'y étaient jetés par grappes de 80. On les repêchait maintenant. Tout le long du tribord, des hommes plongeaient dans le noir. L'Asia n'était plus qu'un feu furieux. À 7 minutes, on entend, venant de la fournaise, ces mots. Ils ont tiré leurs poignards. Puis, un moment après ceci, ils ne veulent pas se jeter à la mer. Ils prient Allah à la salle à manger. On devine que les uns sont entrés en révolte et que les autres se sont tournés vers la Mecque. Les canots revenaient, repartaient. On ne pouvait plus monter sur l'Asia. Les échelles n'étaient plus que du charbon de bois. Il y avait là-dedans un invisible et horrifiant spectacle. En voilà 40 qui se sont décidés d'un coup. Ils plongent, le poignard à la main, et la prière des illuminés de la salle à manger sort du feu par onde intermittente. Mais voici un coup de revolver, le premier. Puis un autre, puis 10, puis 30. Ces détonations me rappellent quelque chose. Ce bruit, je l'ai entendu dans l'Inde, au-dessus des bûchers. Ce sont des crânes qui éclatent. Ceux qui claquent sec, net, sont les crânes des hommes. Les crânes des femmes et des enfants se fendent plus délicatement, comme en sourdine. Les fers de l'Asia sont rougis à blanc. Encore des crânes qui éclatent. À vue d'œil, il semble que 1000 de ces damnés se soient évadés du cercle mortel. Les sauveteurs continuent, ils en retirent un qui porte un parapluie. Ils vont les déverser sur les autres bords. Personne ne pourrait dire depuis combien d'heures dure la chose. On ne vit plus dans le temps, mais dans une fin du monde.
Albert Londres, une émission de Geneviève Ladouès et Jean-Claude Duval, avec la participation de Marc Cravetz, Lucien Baudard, Thierry Desjardins, Georges Charansol. Texte dit par André Dussolier, mixage Guy Senot.
C'était Une nuit à bord du Georges Philippard, 1932, la quatrième et dernière émission de la série Albert Londres ou Le cri d'un honnête homme. Première diffusion le 28 octobre 1982 sur France Culture.